Donc dans cette retraite de vie chrétienne, nous essayons de faire un petit peu un survol de ce que doit être une vie chrétienne. Donc une vie chrétienne, c'est une vie qui nous conduit à vivre près de Dieu, bien sûr. C'est une vie aussi qui nous conduit à, autant que possible, avec l'aide du bon Dieu, à éviter le péché. C'est une vie qui nous conduit à avoir des rapports profonds, intimes, avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et en tant qu'homme, il est justement le moyen choisi par Dieu pour nous conduire à lui. Il est à la fois la voie, comme il a dit lui-même, « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie ». Donc le Seigneur est la vie et il donne la vie. Donc une vie chrétienne, c'est donc une vie passée en compagnie, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre compagnon de route, notre guide, notre modèle, notre ami, notre confident. Et la vie chrétienne est encore une vie qui nous fait vivre de la grâce que nous avons reçue au baptême. Une vie ensuite qui nous conduit à nous purifier de nos affections déréglées par le combat spirituel, mais aussi par la confession. Et c'est encore une vie qui nous prépare à la vie éternelle. Vie éternelle où nous sommes appelés à jouir de Dieu pour l'éternité, au ciel. Mais s'il y a un ciel, il y a aussi un enfer, donc il faut éviter, bien sûr. Et il y a aussi le purgatoire, qui est aussi une donnée à ne pas oublier, et qui est certainement un stimulant pour la vertu. Vivre encore de la vie chrétienne, c'est encore développer les vertus que le bon Dieu a déposées en germe en notre âme le jour de notre baptême, vertu théologale et vertu morale. Vivre de la vie chrétienne, c'est aussi, bien sûr, nous appuyer sur le bon Dieu, et donc c'est une vie de prière. Et donc voilà où nous en sommes maintenant. Donc je vous ai un petit peu résumé donc, le lien qu'on peut faire, ou les motifs pour lesquels des instructions donc, précédentes ont été données. Et donc nous arrivons maintenant à la prière. Alors Dieu est charité, il veut que nous devenions charité. Et pour devenir charité, l'un des grands moyens, c'est la prière. La prière est pour nous le moyen de nous unir à Dieu, donc d'aimer Dieu. Et c'est aussi le moyen, en nous unissant à Dieu, de nous permettre de mieux aimer notre prochain. Alors ici, quelques réflexions que je vais vous donner. Je m'appuierai surtout sur Mgr Lefebvre dans cette instruction, en sachant que lui-même s'appuie sur la tradition, sur ce que l'Église a toujours enseigné, et sur ensuite des beaux modèles de perfection chrétienne. Donc Mgr Lefebvre, par exemple, un jour disait ceci, on voyait bien que Mgr Lefebvre était un homme de prière, c'était un homme, on sentait qu'il était rempli de cet esprit de prière, certains même disent que même quand on le voyait, même quand il était près de vous, il était très présent, mais en même temps on le sentait uni à Dieu. Donc, étant un homme vraiment proche du bon Dieu, je pense qu'il est pour nous un guide, et en même temps aussi, bien sûr, comme il s'appuyait toujours sur la doctrine solide de l'Église, il est pour nous aussi une référence. Donc, il disait ceci dans une homélie en 1983. Nos petits catéchismes enseignent que la prière est l'élévation de nos âmes vers Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est notre âme qui s'élève vers le bon Dieu. Et il ajoutait, la prière vocale n'est pas la seule forme de prière. Sans doute, la prière vocale nous aide à nous élever vers Dieu. Et particulièrement les beaux chants comme le chant grégorien. Le chant grégorien, vous voyez, certains ont tendance à psychoter, donc c'est leur nature un peu. Bon, courage pour eux et pour l'entourage aussi. Mais donc, à mes séminaristes, je leur dis souvent, pour arriver justement à être une âme de prière, regardez ce que l'Église nous donne, vous voyez, elle nous donne le chant grégorien. Mais le chant grégorien ne nous fait pas psychoter, vous voyez. Moi, je ne sais pas, mais enfin, ça nous élève, ça élève vraiment l'âme, mais en même temps, c'est une prière qui est paisible, ouais, une prière qui est pacifiante. et même des prières, lorsque c'est des offices qui sont les offices des périodes les plus douloureuses ou délicates, comme par exemple la messe des défunts. Il y a une messe des défunts, une belle messe de requiem, l'Église utilise les mots justes, donc des mots qui nous rappellent la gravité de ce passage vers l'éternité, mais en même temps qui nous consolent. Elle nous console justement parce qu'elle est dans le vrai, vous voyez. Vous prenez encore aussi les offices de la Semaine Sainte. Les offices de la Semaine Sainte, eh bien, ça élève notre âme. Et ça ne nous fait pas psychoter. Ça nous aide à pleurer nos péchés, ça nous aide à nous repentir, ça nous aide surtout à nous unir à Dieu. Vous voyez. Et c'est ça la prière. Vous voyez. Donc Mgr Lefebvre disait que la prière vocale n'est pas la seule forme de prière, même si donc le chant grégorien, comme il disait lui-même, donc, nous aide beaucoup à nous élever vers Dieu. Mais la prière, ajoutait-il, doit être avant tout intérieure comme elle le sera au ciel. Cette élévation de nos âmes vers Dieu fait que nos âmes se détachent d'elles-mêmes de toute préoccupation temporelle pour être tout entière à Dieu. Donc quand on dit que la prière doit être intérieure, c'est qu'il y a toujours le danger pour nous quand on récite le chapelet, quand on a certaines formules comme ça qu'on répète, c'est que les prières deviennent trop machinales, trop routinières, vous voyez. Et donc, il faut essayer de se dire que la prière est avant tout eh bien, une union de notre âme avec Dieu, donc elle doit être intérieure avant d'être extérieure. Et c'est pour cela que, avant une prière, c'est important de bien se mettre en présence de Dieu. Donc, il faut toujours se dire qui je suis et à qui je m'adresse, voyez. Quand vous allez voir quelqu'un d'important, vous avez un rendez-vous important, eh bien, vous réfléchissez avant, voyez. Vous savez qui vous allez voir, donc vous essayez d'ailleurs de bien vous habiller déjà, hein, parce que c'est pas n'importe qui que vous allez voir, vous n'allez pas n'importe comment chez lui, donc faire attention déjà à la manière de s'habiller, bien sûr, quand on s'adresse à Dieu, surtout dans l'église, bien évidemment, mais ensuite, après, vous réfléchissez un petit peu à ce que vous allez lui dire, vous voyez, et vous essayez en ce moment-là d'utiliser les mots justes, et ensuite, quand vous avez quelque chose à demander, en plus, d'important, bien sûr que vous allez mettre les formes pour essayer d'obtenir ce que vous désirez, vous voyez. Eh bien, il faut se dire que là, dans la prière, on va rentrer en contact avec le Dieu trois fois saint, vous voyez. Le Dieu qui est au-dessus des anges, au-dessus de tous les saints du paradis. Ce Dieu qui est si grand, en même temps si proche de nous, puisqu'il est l'un d'entre nous, il est notre Père, donc, mais c'est à lui que je m'adresse. Donc chaque fois que je me mets en prière, il faut se dire qui je suis et à qui je m'adresse, vous voyez. Donc je suis une créature de Dieu, une créature malheureusement pécheresse, une créature rachetée par notre Seigneur, et donc je m'adresse à ce Dieu qui est si grand et en même temps si bon et si proche de moi. Et en priant, eh bien j'obéis à ce qu'il me demande. Il désire que je prie. Il le désire plus que moi. Et s'il désire que je prie, ce n'est pas pour apprendre quelque chose de moi, c'est pour mon bien. Vous voyez. La prière élève notre âme. Donc c'est à nous qu'elle fait du bien, plus qu'à Dieu lui-même. Et donc la prière, la vraie prière, est d'abord une disposition intérieure de l'âme par rapport à Dieu. Et cette nécessité de la prière, alors, Saint Thomas le dit bien, donc il faut prier toujours sans jamais se lasser, en s'appuyant sur Saint Luc, chapitre 18, verset 1. Et par contre, à ce moment-là, quand Saint Thomas se pose la question, quel est le but de la prière? Et pour nous, ça, c'est important. Le but de la prière, ce n'est pas d'imposer notre point de vue à Dieu, ou notre manière de voir. Le but premier de la prière, ça doit être de disposer nos âmes à vouloir accomplir la volonté de Dieu. Alors cette volonté nous est en partie signifiée, mais elle est en partie cachée. Alors par rapport à ce qui est caché, bien sûr qu'à ce moment-là, on peut, et on doit même, exprimer ces désirs qui sont légitimes. Vous êtes malade, par exemple, vous désirez la santé. Donc vous priez Dieu de vous redonner la santé. Vous avez un être cher qui est malade, vous désirez qu'il guérisse, vous priez Dieu de lui redonner la santé. Mais le but de la prière, ce n'est pas d'imposer notre point de vue à Dieu. C'est de nous... La prière fait partie du plan de Dieu. Donc il y a des grâces que le bon Dieu ne nous donnera que si on le prie. Donc en priant, je ne prie pas pour changer le plan de Dieu, mais pour permettre au plan de Dieu de se réaliser. Et il est tout à fait normal qu'une personne qui est malade, quand elle n'arrive pas à accomplir tous ses devoirs d'État, prie Dieu de lui redonner la santé. Il est tout à fait normal aussi de prier, bien sûr, pour les êtres chers lorsqu'ils souffrent, pour que le bon Dieu, s'il plaît à Dieu, de leur enlever cette maladie. Vous voyez. Mais la prière reste toujours conditionnelle, parce que justement, le plan de Dieu, nous, on ne le connaît pas. Alors, je dis ici un passage de Saint Thomas. Nous n'avons point dessein, donc nous n'avons point de but, dessein, le dessein ici c'est le but, nous n'avons point dessein en priant de rien changer à l'ordre établi par Dieu. Nous prions pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen des prières des âmes saintes. Si bien que par leur demande, les hommes méritent de recevoir ce que le Dieu Tout-Puissant a dès toujours, donc depuis toujours, résolu de leur donner. Donc voilà, le but de la prière, c'est de pouvoir obtenir ce que le bon Dieu a décidé de nous donner. Dieu pourrait très bien nous donner tout ce dont nous avons besoin sans qu'on le réclame, mais il désire qu'on le réclame. Donc la prière fait partie du plan de Dieu. Rappelez-vous cette apparition de la très sainte Vierge Marie à la rue du Bac, à Sainte-Catherine-Labourée, où il y avait des rayons qui partaient des doigts, des mains de la Vierge vers le sol. Certains étaient lumineux et d'autres ne l'étaient pas. Donc ces rayons partaient vers le monde. Et Sainte-Catherine de demander à la Sainte Vierge ce que signifiaient les rayons qui n'étaient pas lumineux. Et elle dit, voilà, les rayons lumineux, voilà les grâces que je déverse sur le monde. Et ceux qui ne sont pas lumineux sont les grâces que je voudrais donner, mais que je ne donne pas parce qu'on ne me les demande pas. Donc il y a des personnes qui parfois arrêtent de prier parce qu'elles n'obtiennent pas le fruit de leur prière. Eh bien, c'est justement une erreur parce que... Tant que l'on ne sait pas eh bien, ce que le bon Dieu demande, désire pour nous, on a le devoir de continuer à prier. Et une des qualités de la prière, c'est justement la persévérance. Parce que Dieu ne réagit pas de la même manière que nous. Donc pour lui, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc on n'a pas la même manière de voir. Alors encore un développement sur ces qualités de la prière. Donc on a parlé de la prière vocale, et qui est donc nécessaire, mais qui n'est pas la seule forme de prière. Mais la prière vocale, malgré tout, va aussi, dit encore saint Thomas, va exciter à la dévotion intérieure. C'est-à-dire que le fait de prier, quand on prie à plusieurs, lorsque, par exemple, on chante les compliments ensemble, eh bien, du coup, ou le chapelet, quand on le récite ensemble, le fait d'être à plusieurs, eh bien, ça nous encourage. Bon, certains préfèrent prier seuls, hein, mais souvent, le fait d'être à plusieurs, eh bien, c'est un soutien. Donc, et elle va, cette prière vocale, susciter, donc favoriser, la dévotion intérieure. Donc la qualité première, c'est d'abord une qualité de l'âme, donc intérieure, mais ensuite le fait de l'exprimer de façon audible, eh bien, ça favorise bien sûr la disposition intérieure de l'âme. Alors ensuite, après, saint Thomas dit aussi que la prière vocale est en quelque sorte le débordement de la dévotion, puisque parfois donc, on est tellement rempli du bon Dieu ben, qu'on exprime justement sa joie eh bien, en priant, donc avec une prière vocale. Ça me fait penser que quand j'étais à Lyon, en ministère avant d'être ici à Flavigny, j'étais 8 ans prêtre à Lyon, et on avait le chapelet le soir à 18h30, si mes souvenirs sont bons, non 18h, je ne sais plus, enfin, Madame Marquet, je ne sais plus. Je crois que c'est 18h, c'est la messe, c'est à 18h30. Là. Et donc à 18h, on avait le chapelet, et puis c'était un mercredi, donc le prêtre donc, était là pour dire le chapelet, avec les quelques fidèles qui étaient là, il y a peut-être une quinzaine de fidèles. Et puis un jour, au milieu du chapelet, il y a un monsieur qui rentre, que je ne connaissais pas, donc il avait un visage asiatique, il avait une trentaine d'années à peu près, 30-35 ans, assez costaud, grand. Il fait sa génuflexion, il s'assoit, il se met à genoux je pense, il a dû se mettre à genoux, enfin, c'est un détail. Mais en tout cas, il est rentré dans la chapelle, je sais, en plein milieu du chapelet. Et alors qu'on était en train de réciter le chapelet, tout d'un coup, il s'est mis à hurler dans la chapelle. « Je crois en Dieu ! Je crois en Dieu !» On dit « Ouya ! » Dans mon séminaire, on ne m'avait pas expliqué ce qu'il fallait faire dans un cas pareil. On le met dehors, il est assez costaud, je continue le chapelet. Qu'est-ce que je fais ? Bon, j'ai continué le chapelet. En espérant qu'il se calme, mon cœur a battu peut-être un peu plus vite, un peu plus fort pendant un certain temps. Mais après, je me suis bien posé. Et puis à la fin du chapelet, comme on avait la messe qui suivait, donc là je l'ai fait chercher. Donc on avait un fidèle aussi costaud que lui, à peu près du même âge. Et donc je lui demande d'aller le voir et puis de le faire venir à la sacristie pour qu'on s'explique. Et alors là, donc, ce monsieur rentre, et puis avec l'air un peu hagard, bon, Alors je lui dis, monsieur, mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris, quoi? C'est vrai que nous, on avait dit le je crois en Dieu au début, quoi, mais on ne l'a pas dit en hurlant, je crois en Dieu, quoi. Alors ici, bien sûr, ceux qui sont là croient en Dieu, hein, sinon ils ne viendraient pas ici à la chapelle. Donc c'est bien que vous croyez en Dieu, mais en fait, il y a peut-être d'autres manières de le dire, quoi, enfin de l'exprimer. Et alors, en ce moment-là, je lui demande d'expliquer qu'est-ce qui lui a pris, quoi. Il me dit, ben voilà, en fait, j'ai senti qu'il fallait que j'exprime ma foi quelque part, quoi. Alors, je suis allé dans plusieurs églises, puis rien n'est sorti, et chez vous, paf, c'est sorti. Alors, monsieur, justement, la sortie, c'est par là, hein. Mais non, mais il n'y a rien à faire, il voulait assister à la messe. Je lui dis, mais si au milieu de la messe, il se met à hurler, je crois en Dieu, moi j'aurais l'air malin. À l'hôtel, je ne vais pas redescendre de l'hôtel. Bon. Alors je voulais vraiment qu'il parte, quoi. Mais bon, finalement, il est resté à la messe. Et puis après la messe, à la fin de la messe, il s'était mis à la sortie. Et quand les gens sortaient, donc au fur et à mesure, il serrait la main des gens en disant, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Alors, les gens disaient, oui, moi aussi, monsieur, moi aussi. Donc quand je vois que la dévotion, donc. Enfin, que la prière vocale peut être le débordement de la dévotion. Souvent, je pense à cet exemple-là de « je crois en Dieu ». Mais bon, il y a d'autres manières quand même d'exprimer sa foi, de façon plus modeste. Voilà. La prière vocale, ensuite la prière spirituelle, hein, ce que Monseigneur Lefebvre va appeler la prière spirituelle. Donc, il disait ceci: « En approfondissant et la nature de la prière et son extension dans notre existence humaine et chrétienne, nous aurons la conviction que la vie profonde de l'esprit créé et racheté doit être une prière continuelle. » Et là, il va parler justement de cette prière spirituelle. Alors, c'est vrai que quand on parle de prière continuelle, ça ne veut pas dire qu'on soit un moulin à paroles à prier tout le temps, mais ça veut dire qu'on doit essayer de vivre au maximum en présence de Dieu. Quand on parle de prière continuelle, on veut dire par là que Dieu doit vraiment faire partie de notre vie, de telle sorte que, eh bien, on soit toujours prêt à nous tourner vers lui, pour le remercier lorsque on reçoit une grâce, pour lui demander son aide lorsqu'on en a besoin, pour implorer sa miséricorde également lorsqu'on a fait malheureusement un faux pas. Et un peu comme eh bien, les enfants pendant l'école, eh bien, régulièrement ils pensent aux vacances. Donc cette pensée des vacances, à l'approche des vacances, les encourage eh bien, à tenir, je pense, jusqu'au bout. Ou ceux qui travaillent pareil aussi, bon, parfois pensent à la période des vacances. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu cela pour nous. On doit essayer de penser, si vraiment le bon Dieu fait partie de notre vie, eh bien, d'une façon habituelle, pas actuelle toujours, mais habituelle, il doit être toujours près de nous. Oui, voilà. Alors saint Thomas après se pose la question, est-ce que l'attention dans la prière est-elle nécessaire? Alors il répond, et bien sûr que oui, qu'elle est utile. Mais est-elle indispensable? Il répond, pour le mérite et pour le mérite et l'obtention du mérite, non, pourvu que l'intention initiale y soit. Ça veut dire que dans la mesure où j'ai vraiment l'intention de prier, même si dans ma prière, pof, mon esprit s'empare par ailleurs, eh bien, dans la mesure où, au départ, j'ai vraiment voulu bien prier et que cette distraction n'est pas volontaire, eh bien, à ce moment-là, ma prière reste méritoire. Voilà. Maintenant, il faut encore faire des précisions quant à l'attention dans la prière. Qu'est-ce qu'on entend par attention dans la prière? Donc, il y a l'attention aux mots. Donc, ne pas se tromper, d'utiliser les mots justes. Hein. Enfin, je ne dis pas là que de ne pas sauter un verset, par exemple, quand on dit une prière en latin, par exemple. Donc, l'attention aux mots, l'attention au sens des mots, donc savoir ce qu'on dit. Et puis ensuite, l'attention à Dieu. Et en fait, le plus important, c'est l'attention à Dieu. Et donc, ça peut arriver que dans la prière, eh bien, justement, on chante le Gloria ou le Kyrie, eh bien, on ne fait pas attention forcément à chaque mot. Mais en fait, on sait très bien que le Kyrie, c'est une prière qui implore la miséricorde de Dieu. On sait que le Gloria est une prière qui glorifie le bon Dieu. Et donc, on est uni à Dieu. Et c'est ça le but de la prière, vous voyez. Donc, quand on parle d'attention, c'est avant tout l'attention à Dieu qui est le principal. Donc, c'est à cela qu'il faut essayer d'arriver. Mais l'attention au sens des mots aide aussi à l'attention à Dieu, bien sûr. Si on ne fait jamais attention à ce qu'on dit, ben, on aura plus de mal à s'unir à Dieu, vous voyez. Mais maintenant, donc. Il se peut qu'il y ait parfois des distractions qui soient donc involontaires. Donc une distraction involontaire n'enlève pas pour autant le mérite de la prière. Ce qui enlèverait le mérite de la prière serait une distraction volontaire. Oui. Il y a un chat qui est là, alors du coup après on regarde le chat, et on dit, ah, c'est amusant ce chat, voilà. Alors si au début on l'a vu sans le voir, bon voilà, et donc tout de suite on essaie de se remettre dans l'esprit de prière, en ce moment-là, il n'y a pas de. La prière reste donc méritoire. Mais si, bien sûr, après, on reste là volontairement à jouer avec le chat, on ne prie plus, bien sûr. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas va nous dire, lui qui était un grand intellectuel et surtout spirituel, un homme de Dieu, la débilité naturelle de l'esprit humain ne lui permet pas de demeurer longtemps dans les hauteurs. Le poids de la faiblesse humaine ramène l'âme à des régions plus basses. Et l'esprit qui, dans la prière, avait pris son essor vers Dieu, qu'il contemplait, se trouve soudain errant à l'aventure. C'est là notre infirmité. Je trouve que c'est très consolant et rassurant d'entendre saint Thomas nous dire cela. Voyez. Donc c'est dans la somme théologique, c'est la Secunda Secundae, question 83, article 13. Et après, saint Thomas, donc, par contre, va ajouter, donc si c'est de propos délibérés que l'esprit s'égare, c'est un péché, en ce moment-là, et un obstacle au fruit de la prière. Alors dans la prière, donc, on doit bien distinguer aussi donc, prière vocale et prière mentale, comme je l'ai dit, mais on doit aussi distinguer prière liturgique et prière privée. Donc une prière liturgique, la messe est une prière liturgique, les complies qu'on a le soir, c'est encore une prière liturgique, ou les vêpres qu'on a eues aussi dimanche, voilà des prières liturgiques. Quand on dit le chapelet en commun, c'est une prière, une très belle prière, une très belle prière le chapelet, mais en soi, ce n'est pas une prière liturgique. Dans les prières liturgiques, c'est donc la messe et l'office divin, essentiellement, et le salut du Saint-Sacrement aussi, donc ça fait partie des prières liturgiques. Eh bien, cette prière liturgique prolonge la prière de notre Seigneur dans le temps et donc a une valeur particulière. Voyez. La prière liturgique a une force plus grande que la meilleure des prières privées parce que la prière liturgique est une prière qui prolonge dans le temps la prière même de notre Seigneur. La prière liturgique, c'est la prière de l'Église, épouse mystique de notre Seigneur, et c'est même la prière de notre Seigneur, prolongée dans le temps, puisque l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. L'Église, poursuit dans le temps la mission de notre Seigneur. Et donc le prêtre, en tant qu'homme d'Église, eh bien, reçoit un pouvoir de prier donc avec cette prière liturgique, et cette prière a donc une valeur toute particulière. Et les fidèles, en tant que baptisés, eh bien, deviennent membres du corps mystique de l'Église qu'est notre Seigneur, donc du corps mystique qu'est l'Église, et devenant membres de ce corps mystique, ont eux-mêmes le pouvoir de s'unir à la prière du prêtre. Donc le prêtre, lui, je dirais que la prière est son office, il doit prier, il prie par état, par devoir d'état, et les fidèles, en s'unissant à cette prière, leur prière devient aussi prière de l'Église. Donc un prêtre qui est tout seul en train de dire son bréviaire, c'est une prière liturgique, même s'il est tout seul. Alors que si 100 personnes disent le chapelet à côté, ce n'est pas une prière liturgique, ça reste une prière privée. Par contre, lorsque les fidèles sont avec le prêtre à dire un office, par exemple les vêpres, eh bien à ce moment-là, leur prière devient prière liturgique. Alors que s'ils disaient eux-mêmes cette même prière seule, eh bien, ce ne serait pas une prière liturgique. Pour qu'elle soit prière liturgique, il faut qu'il y ait au moins un ministre de l'Église, député par l'Église, pour cette prière. Voilà. Donc, ça veut dire que vous dites les complies en famille le soir, ce n'est pas une prière liturgique. Enfin, c'est la prière de l'Église, en soi, que vous dites, mais en fait, ce n'est pas, en ce moment-là, une prière liturgique. Elle n'a pas la même valeur. Par contre, un prêtre est là, ou même un sous-diacre, parce que dès le sous-diaconat, on a cette capacité, en ce moment-là, de s'unir à la prière de l'Église, eh bien, en ce moment-là, elle devient prière liturgique. Donc on va dire que la capacité de prier avec cette prière liturgique est une puissance active chez le prêtre, il a le pouvoir de transmettre le divin, et une prière passive chez le fidèle qui a le pouvoir de s'unir à cette prière du prêtre. Oui. Mais donc il faut penser qu'il y a une force donc particulière à cette prière. Oui. Et comme cette prière elle est inspirée de l'Esprit Saint, elle a bien sûr une valeur particulière pour toucher le cœur de Dieu. Parfois, on se dit, voilà, quels sont les mots que je pourrais utiliser pour être sûr de toucher le cœur de Dieu? Eh bien, quand je prie avec la prière liturgique, à ce moment-là, ma prière a une valeur tout à fait particulière. Et donc, la liturgie va être pour nous une école de prière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que même les petits livrets que j'ai pu faire, le livret du temps pascal, du carême, eh bien, se greffent sur le cycle liturgique parce que l'Église, dans sa pédagogie, saura ménager les temps d'ascèse et les temps de festif, donc les temps de mortification et les temps d'union à Dieu, les temps de mortification du vieil homme et d'épanouissement de l'homme nouveau. Elle fait cela avec un savant dosage. Et donc, en se mettant à l'école de la liturgie, on est à peu près sûr d'avoir une vie spirituelle équilibrée. Oui. Alors maintenant, je voudrais vous parler, pour terminer, de la prière privée comme prolongement et préparation de la prière liturgique. Donc j'ai dit que la prière liturgique est la prière officielle de l'Église, une prière qui est toujours écoutée de Dieu, qui a une valeur particulière, donc beaucoup plus grande que n'importe quelle prière privée. Maintenant, eh bien, pour que cette prière liturgique produise tous ses effets, il est nécessaire de se mettre dans certaines dispositions. D'où l'importance de la prière privée avant la prière publique, donc d'arriver à l'heure aux offices, par exemple, largement à l'heure, pour pouvoir se mettre en présence de Dieu, pour pouvoir mieux profiter de l'office. Et puis ensuite aussi, après l'office, éventuellement, en fonction après de l'emploi du temps, de rester aussi un petit peu en esprit de prière pour pouvoir en tirer un plus grand bénéfice. Voyez. Parce que l'expérience montre que les plus belles prières, à force d'être répétées, finissent par entraîner une certaine routine. On est ainsi fait. Hein. Donc on doit prendre de bonnes habitudes, mais pas devenir pour autant un homme habitué. Donc l'habitude nous aide à faire les choses, donc c'est utile, c'est très utile d'avoir de bonnes habitudes, mais il ne faut pas pour autant devenir des hommes habitués, c'est-à-dire à faire en sorte que la prière, qu'on soit simplement une espèce de moulin à paroles, sans réfléchir à ce que nous disons. Vous voyez. Donc, si on n'a pas cette habitude de prière personnelle, individuelle, profonde, on aura du mal à avoir l'esprit de prière pendant les temps de prière liturgique. Donc la prière privée va nous préparer à la prière liturgique et ensuite elle va elle-même aussi nous aider à la prière privée. Donc elle va nous porter ensuite à la prière personnelle. Alors au sujet de cette vie d'oraison, voici ce que disait Mgr Lefebvre. Beaucoup ont l'impression que quand ils sont allés à la messe le dimanche ou quand ils ont fait un acte religieux dans la semaine, après c'est terminé. Mais la prière doit être une attitude intérieure continuelle. Sans doute, on ne peut pas prier tout le temps, on a ses occupations. Mais l'on doit conserver cette disposition intérieure, c'est-à-dire cet esprit d'adoration intérieure de Dieu qui fait que l'on est entièrement soumis à lui, totalement dans ses mains, toujours désireux de ne faire que sa volonté. Donc il faut savoir quitter le Dieu de la prière pour le Dieu du devoir d'État, mais en accomplissant son devoir d'État, si je le fais dans l'esprit de la soumission à la volonté de Dieu, je reste en quelque sorte en esprit de prière. Oui. Monseigneur ajoutait, « Tous les saints ont pratiqué la vie d'oraison qui est à la fois un effet et une cause de la sainteté. Beaucoup ont écrit sur ce sujet, en particulier Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales. C'est qu'ils avaient une conception très étendue de cette vie de prière, qui atteint et la volonté et le cœur, et qui réalise ainsi la fin pour laquelle Dieu nous a créés et rachetés, adorer Dieu dans une offrande totale de nous-mêmes, à l'exemple de notre Seigneur venant en ce monde et disant « Voici que je viens pour faire ta volonté ». Donc c'est toujours pareil, le but de la prière, c'est d'arriver à nous soumettre à la volonté de Dieu, quel que soit ce que le bon Dieu nous réclame, que ce soit quelque chose d'agréable ou quelque chose de plus pénible. Monseigneur continue, « La conception de la prière se limitant à la prière vocale ou mentale serait une désastreuse conception de la prière qui doit concerner tout notre être, comme la prière des anges et des élus du ciel. On ne peut séparer les 7 demandes du Pater. Les 3 premières sont liées indissolublement. On ne peut pas séparer le premier commandement des autres commandements. Je suis venu jeter le feu sur la terre et quel est mon désir sinon qu'il s'allume ? Le feu, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de charité qui remplit la Trinité Sainte et qui a créé des esprits pour les embraser de cette charité. » Donc la prière, c'est cela, c'est justement notre âme qui se remplit de Dieu et qui s'unit à lui. Alors ensuite, pour ne pas s'étonner, si vous voulez, de ne pas y arriver tout de suite et qu'il y ait des hauts et des bas, c'est notre vie, hein, malheureusement, même les prêtres, même les religieux, les religieuses, on a toujours du mal à rester dans cet esprit de prière. Monseigneur disait ceci, d'ailleurs, il s'adressait à ce moment-là à des religieuses de la fraternité, c'est en 1976 à Albano. Le développement de l'esprit de prière, de la vie d'oraison, correspond au développement de la vie spirituelle. Tant qu'on n'est pas purifié, quand on cherche à se mettre en prière, l'imagination et la mémoire commencent à travailler et on est parti. On est parti, il montre bien que voilà, l'esprit s'évade. Alors, il faut revenir à Dieu lentement, paisiblement. Il ne faut pas perdre patience et s'agacer contre soi-même en disant « J'arrive pas à prier, je suis toujours distrait, je ne peux pas arriver à me concentrer. » Ce n'est pas en s'énervant contre soi-même que l'on y arrivera. Il faut demander à notre Seigneur la grâce de l'oraison et faire taire tout doucement ce qui peut la gêner. Voyez. Donc il faut essayer de s'apaiser progressivement. Voyez. Vous voyez bien, par exemple, vous-même aujourd'hui, je pense, bon après ça peut dépendre des retraitantes, hein, de vos soucis, de la nuit que vous avez passée, mais vous sentez que normalement ça devient un peu, peut-être un peu plus facile de prier que tout au début, vous voyez. Au moins à un certain moment. Parce que justement, vous êtes ici dans une atmosphère qui favorise cet esprit de prière. Mais ensuite, quand vous serez dans le monde, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut quand même essayer de faire ensuite. C'est donc essayer d'éliminer tout ce qui peut vous soucier pour essayer de vous unir plus intimement à Dieu, à notre Seigneur. Alors, quand on parle d'oraison ou de méditation, sur quoi doit porter surtout notre vie de méditation et d'oraison? Eh bien, parmi les thèmes les plus importants sur lesquels nous devons méditer, il y a d'abord la vie de notre Seigneur. Parce que justement, la religion catholique, c'est la religion de l'incarnation. Si Dieu a pris une nature humaine comme la nôtre, eh bien, c'est pour qu'on puisse avoir un exemple visible, proportionné à notre nature humaine. Vous voyez, notre Seigneur est réellement homme, encore une fois. Saint Thomas le dit bien. Regardez l'humanité du Christ, voilà le moyen par excellence d'exciter la dévotion. Donc la dévotion, c'est cette promptitude à dire oui à Dieu. Eh bien, pour être capable de toujours dire oui à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez notre Seigneur. Oui. Quand je vois la vie de notre Seigneur, quand j'entends notre Seigneur parler, bien sûr que je l'aime, j'apprends à l'aimer. Et en apprenant à l'aimer, j'ai le désir de le suivre. Oui. Et donc ma croix paraît plus légère. Oui. Donc c'est de regarder cette humanité de notre Seigneur qui va exciter en nous la dévotion. C'est comme un guide, ajoute encore saint Thomas, qui nous prendrait par la main, mais la divinité du Christ fournit à la dévotion son motif essentiel. Donc je regarde l'humanité comme canal pour arriver ensuite à la divinité de notre Seigneur. Donc le Seigneur est réellement homme, mais il est Dieu. Et donc c'est ça qu'il faut se dire justement. Cet homme qui parle, c'est Dieu. Et donc en l'entendant parler, ses paroles me touchent, bien sûr particulièrement, parce que c'est Dieu qui parle. Alors Monseigneur Lefebvre donne ici quelques conseils. Quelquefois, vous pouvez avoir des difficultés pour trouver des sujets de méditation. Eh bien, méditez la vie de notre Seigneur. Reconstituez sa vie. Prenez les mystères du rosaire les uns après les autres, par exemple. Pour l'Annonciation, vous reconstruisez dans votre esprit la scène de l'Annonciation. Vous vous trouvez à côté de la Sainte Vierge, auprès de l'Archange Gabriel, auprès de notre Seigneur, dans le sein de la Vierge Marie. Puis pour la Visitation, reconstituez la scène. La Vierge Marie partant à travers la montagne, la rencontre avec sa cousine Élisabeth, la sanctification de Saint Jean-Baptiste et le Magnificat. Ou encore, regardez la Très Sainte Vierge, demeurant pendant quelques mois avec Élisabeth pour aider sa cousine, qui était déjà âgée, et y restant sans doute jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Vous pouvez ainsi reconstituer toutes les scènes de la vie de notre Seigneur en demeurant dans cette ambiance, dans cette compagnie de notre Seigneur, des saints anges, de la Sainte Vierge, des apôtres. Cela ne pourra qu'exciter votre dévotion, votre reconnaissance envers Dieu, votre amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la sainteté, aimer notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, le suivre et l'imiter. Et puis ensuite, et surtout dans les moments plus difficiles que l'on a à traverser, si on doit regarder la vie de notre Seigneur, on doit surtout regarder la passion de notre Seigneur. On doit méditer la passion de notre Seigneur. C'est ça qui va nous aider, en fait, à accepter notre propre croix. Écoutons encore, Monseigneur. Quelle doit être notre méditation principale lorsque nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous essayons de vivre avec lui? Eh bien, c'est sa passion, c'est sa croix. Parce que c'est par son sang qu'il nous a rachetés, que nous avons reçu la vie divine et que nous recevons encore tous ses bienfaits. Toutes les grâces nous viennent par sa croix, nous viennent par sa passion, l'Eucharistie et le sacerdoce. Que notre crucifix soit le livre de nos méditations, parce que tout est résumé dans la croix de notre Seigneur. Sa divinité, donc le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de la Trinité aussi, car notre Seigneur a en lui le Père et le Saint-Esprit. Vous méditerez sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas rien, ce sacrifice. La croix de Jésus domine l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde. La croix demeure, la croix est immuable devant les vicissitudes du monde. Plus vous approcherez de la croix, plus vous serez des crucifiés, plus vous participerez aussi à l'immutabilité de Dieu. Fixé à la croix pour toujours, vous ne changerez plus. Voilà. Et donc, et parce que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, eh bien la messe reste la dévotion principale du catholique. À chaque messe, eh bien j'ai sous les yeux tous les mérites que notre Seigneur a acquis par sa passion. Donc la messe est un sacrifice, donc il y a bien séparation non sanglante du corps et du sang. C'est une séparation qui est mystique, mais qui n'est plus aujourd'hui physique, parce que notre Seigneur, bien sûr, ne meurt plus. Mais la séparation reste sacramentelle. Et donc, il y a un réel sacrifice. Et dans ce sacrifice, eh bien, notre Seigneur s'offre à Dieu son Père avec le même amour qu'il avait sur la croix. Et donc, ses mérites, en ce moment-là, sont déversés sur nos âmes en fonction de notre générosité à correspondre eh bien, aux grâces qu'il veut nous donner. Oui. Et donc, à chaque messe, en revoyant tout ce que notre Seigneur a souffert, bien sûr que ça nous donne plus de courage pour affronter nous-mêmes nos difficultés particulières, personnelles. Monseigneur le disait également, « Quelle est la grande réalité de notre foi que contemplent spécialement les catholiques fervents ? C'est le Saint-Sacrifice de la messe. Les chrétiens doivent contempler notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, comme la très sainte Vierge Marie qui était à côté de lui, et voir dans cette croix le sommet de l'amour de Dieu. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Notre Seigneur a donné sa vie pour nous dans des souffrances terribles. Notre Seigneur peut se définir comme l'amour poussé jusqu'au sacrifice de soi. Notre Seigneur a manifesté l'amour de son Père et l'amour du prochain jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et alors la conséquence que ça doit produire en nous, si la contemplation est un regard d'amour en Jésus crucifié et glorifié, elle transfère l'âme dans les mains de Dieu. « En vos mains, je remets mon esprit. » Et cela ne peut se réaliser que par un complet abandon de notre volonté dans les mains de Dieu, c'est-à-dire une obéissance consommée à sa volonté. Donc c'est toujours pareil, le but, c'est d'arriver à unir notre volonté à celle de Dieu. Et si Dieu a choisi la croix comme moyen pour nous ramener à lui, c'est que justement nous sommes sur la terre pour accomplir cette volonté. Et comme nous sommes tous pécheurs, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen pour nous pour arriver au ciel que de porter notre croix. Et donc le Seigneur nous dit, il le dit à chacun d'entre nous, que celui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voyez. Sa croix. Donc ce n'est pas celle du voisin, ce n'est pas celle de la voisine. On doit porter notre croix. Et donc voir à travers tout ce qui nous coûte, une part de la croix de notre Seigneur, c'est ce qui va nous aider à mieux la porter. Autre sujet de prière aussi possible, dans l'oraison, il y a aussi les grandes prières de l'Église. Vous pouvez prendre le Gloria, le Credo, le Notre Père, tout simplement, le Je vous salue Marie, le Te Deum. Tout cela peut vous aider. Et après aussi, il ne faut pas hésiter à dans la prière, on doit parler à Dieu, mais on doit aussi écouter Dieu. Donc il faut apprendre à faire le silence, voyez. Et au sujet des distractions, donc dans les prières... Il y avait une religieuse qui avait une réputation de sainteté dans un couvent. Et un prêtre qui avait prêché la retraite chez elle avait su qu'il y avait une religieuse parmi elles qui était particulièrement fervente. Alors du coup, bah, il demande à cette religieuse, quand il la voit en entretien, « Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous dites en oraison ? Quelle est la formule qui revient le plus souvent, en fait, dans votre... ?» Et alors la religieuse répond et dit « Je m'en fous. » Oui, il y a un petit problème là. Soit je me suis trompé de religieuse, ou soit elle est particulièrement fatiguée aujourd'hui. Et à part ça, en ce moment-là, qu'est-ce que vous dites encore? Je dis, je m'en fous. Oula, elle est simplette ou quoi? Et à part ça, je m'en fous. Bon. Alors après, il demande quand même des explications. Et elle expliquait qu'elle était responsable de la lingerie et que chaque fois qu'elle se mettait en prière, elle voyait le tas de linge qui lui restait encore à faire. Et donc elle disait, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc ne soyez pas surprise quand vous mettez en prière eh bien, que vous avez encore tout le travail qui reste à faire, qui revient à la surface. Et à ce moment-là, vous saurez dire, comme cette religieuse, « Je m'en fous !» Et vous ferez une très belle prière. Et à ce sujet, justement, il faut apprendre à être simple avec le bon Dieu. Vous voyez. Donc, il faut savoir se présenter à Dieu tel que vous êtes, vous voyez, avec justement tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, tout votre travail, tout, en disant Seigneur, j'arrive pas, Seigneur, venez à mon secours, Seigneur, venez à mon aide. Donc, il faut être simple avec lui. Vous voyez. Écoutons encore Monseigneur qui disait aux religieuses de la fraternité, donc ces paroles, pour apprendre à faire oraison, il faut surtout agir en simplicité avec le bon Dieu. Penser que le bon Dieu est notre Père, qu'il sait parfaitement ce dont nous avons besoin, qu'il nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et qu'il sait par conséquent ce que nous sommes. Je dirais qu'il faut apprendre à vivre à côté de notre Seigneur, même si nous n'avons rien à lui dire, même si nous n'avons pas de parole à lui exprimer. Le seul fait que nous soyons là, de nous donner complètement à Dieu, et c'est toujours ça l'important, mais toujours ce désir de se donner à Dieu, de nous livrer à lui, ce seul sentiment de notre âme suffit. C'est la vraie prière, la prière intérieure, la prière qui nous sanctifie. Donc, pour savoir si votre prière est bonne, c'est est-ce que la prière m'aide à me soumettre davantage à la volonté de Dieu dans ma vie quotidienne? Oui, et eh bien à ce moment-là, ma prière est bonne, voyez. Si le fruit de la prière, c'est ben maintenant j'ai compris, hein, moi je suis bien meilleur que les autres, eux sont tous des nuls. À mon avis, il y a un petit problème là aussi, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Parce que la prière, justement, nous remet à notre place devant Dieu, voyez, et devant les autres aussi. Voyez. Monseigneur disait encore, la prière intérieure doit être simple si elle est provoquée par la contemplation des bienfaits du bon Dieu, de sa grande bonté et de notre misère. Ce sont deux sujets qui nous placent devant Dieu comme des enfants devant leur Père, qui est tout. Donc savoir contempler les bienfaits de Dieu pour l'en remercier et savoir aussi reconnaître notre misère pour implorer sa miséricorde. Autre conseil qui est donné cette fois-ci à des carmélites, il n'est pas nécessaire pour faire oraison de multiplier les pensées, de multiplier les idées, les lectures. Au contraire, c'est simple. Il s'agit de manifester l'amour que nous avons pour celui qui nous a tout donné. Nous savons qu'il est là, présent en nous, à côté de nous, qu'il est partout. Alors il nous plaît d'être avec Dieu, de demeurer avec lui. L'oraison, c'est l'amour. Ainsi, un enfant est heureux à côté de sa mère. Quand il est avec elle, il est tranquille. Si on lui enlève sa mère, il pleure. Près d'elle, il reste là, il ne dit rien. Et pourtant, il est bien uni à sa mère. La preuve, c'est qu'il pleure et qu'il crie lorsqu'on l'en sépare. Nous devrions être comme cela aussi avec le bon Dieu. Si on nous séparait de lui, nous ne devrions pas le tolérer. Or, on peut être avec Dieu partout. Alors ne compliquons pas nos oraisons, ne nous tracassons pas pour chercher des voies compliquées. Lisez Le chemin à la perfection de Sainte Thérèse d'Avila. Dans ce livre qui est si simple, elle parle de l'oraison. Elle a fait consister dans de simples regards, de simples affections vis-à-vis de Dieu. Et à la fin de sa vie, il disait, plus je prends de l'âge et plus je pense que c'est l'oraison du cœur qui transforme l'âme et la met en état d'offrande continuelle. C'est à elle que doivent aboutir les oraisons vocales et mentales. Que les fidèles apprennent donc à adorer notre Seigneur Jésus-Christ, ils y trouveront la paix et la joie. Alors pour arriver à cela, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'un bon livre, hein. C'est sûr que les livres aident à décoller en quelque sorte, hein. Donc il s'agit de pour nous de nous élever vers Dieu, mais on ne peut pas y arriver comme ça, donc un simple mouvement de l'âme, vous voyez. Donc, on a besoin de bons livres. Donc, un livre est un bon compagnon. D'ailleurs, ce livre-là, La vie spirituelle, donc livre posthume de Monseigneur Lefebvre, dont je vous lis des extraits ici, dans la partie sur la prière, je vous invite à le prendre si vous ne l'avez pas. Je pense qu'il pourra vous aider à prier. Mais là, je dis livre de lecture spirituelle, il ne s'agit pas en ce moment-là de lire un livre spirituel dans le but d'enrichir vos connaissances. Et le but de la prière, c'est d'apprendre à aimer. Le but, c'est d'apprendre à aimer Dieu. Donc je lis avec comme but de rentrer en contact personnel avec Dieu. Voyez. Il y a un auteur ici, le cardinal Mercier, qui écrivait à ses séminaristes en 1926, hein, que ce livre a été écrit. Il montre deux voies distincte, une voie de méditation, mais un peu trop intellectuelle, et la voie de l'oraison. Et il parle donc à des séminaristes, il avait déjà une très longue vie sacerdotale derrière lui, et il disait que trop de séminaristes ou de prêtres avaient tendance à s'arrêter à une voie un peu trop, à cette méditation discursive, mais un petit peu trop intellectuelle en quelque sorte. Donc c'était plutôt une réflexion intellectuelle plus qu'un cœur à cœur, voyez. Et donc le but, c'est d'arriver au cœur à cœur. C'est ça le but de la prière. L'oraison, c'est vraiment un cœur à cœur de notre âme avec Dieu. Voyez. Alors je prends un exemple pour vous aider à comprendre la différence entre les deux manières de prier. Voyez. Donc la méditation vue dans le sens que critique ici le cardinal Mercier, qui déjà en soi une très bonne chose, mais qui ne conduit pas l'âme aussi haut, et qui ensuite peut même nous décourager après au bout d'un certain temps, c'est lorsque par exemple vous méditez sur le troisième mystère douloureux, donc mystère du couronnement d'épines. Donc vous êtes là en train de réfléchir à ce que notre Seigneur, ce que le Christ, qui est Dieu, le Dieu fait homme, a souffert dans ce supplice. Notre Seigneur a été flagellé, et ensuite, après déjà ce tourment horrible, donc on lui met un casque d'épines qu'on lui enfonce sauvagement dans son crâne, parce qu'ils ont entendu dire que notre Seigneur a dit qu'il était roi des Juifs, et donc pour se moquer de sa royauté, on lui met ensuite cette couronne d'épines, qu'on lui enfonce sauvagement dans le crâne. Ensuite, on lui met un sceptre dans la main, une robe ensuite écarlate, et donc notre Seigneur apparaît comme cela. Ensuite, c'est l'Ecce Homo, donc devant la foule. Donc on voit ainsi notre Seigneur couronné d'épines, et donc on réfléchit à ce moment-là à tout ce que notre Seigneur a subi à ce moment-là. Et en fait, on sait que notre Seigneur a voulu surtout subir ce supplice pour expier les péchés de la tête, c'est-à-dire les péchés d'orgueil, les péchés qu'on commet avec notre tête, en faisant un mauvais usage de notre intelligence et de notre volonté. Comme il a expié les péchés de la chair, en acceptant d'être fouetté comme les bêtes, par le supplice de la flagellation. Donc, en voyant tout ce que notre Seigneur a subi, on médite là-dessus, on se dit « Oh, qu'est-ce qu'il a souffert ? Il a souffert pour mon orgueil, moi qui suis si orgueilleux, il faut que j'arrive à devenir plus humble, je vais faire des efforts aujourd'hui pour devenir plus humble. » C'est déjà une très belle prière. Vous avez médité, vous avez réfléchi à ce que le Christ a souffert, et vous avez pris ensuite la résolution de faire des efforts, parce que vous savez qu'il a expié les péchés d'orgueil, en essayant de devenir plus humble. Voilà. Mais vous pouvez constater que cette méditation, et en fait, c'est uniquement vous qui réfléchissez, vous voyez. Et vous réfléchissez sur un fait objectif, mais vous êtes seul, en quelque sorte, dans cette méditation. Alors que dans l'oraison, vous avez exactement le même tableau, mais vous essayez de rentrer en communication avec notre Seigneur. Donc vous mettez déjà en sa présence, vous savez que Dieu est partout, vous savez qu'il est présent en vous par la grâce, si vous êtes en état de grâce, et je le souhaite pour vous. Et donc, vous mettant en présence de Dieu, vous dites « Seigneur, aidez-moi à me mettre en votre présence et à essayer de méditer ce que vous avez subi par ce terrible couronnement d'épines. » Et ensuite, en le voyant ainsi couronné d'épines, tout de suite vous dites oh, « Seigneur, c'est pour moi que vous avez subi ce supplice pour expier mon orgueil. Et ayez pitié de moi, je veux faire des efforts aujourd'hui pour être plus humble, je voudrais accepter. » Voilà. Donc en ce moment-là, vous voyez, vous avez exactement le même tableau au départ, mais dans le premier cas, c'est une espèce de soliloque, de monologue. Et dans le deuxième cas, c'est un dialogue qui apparaît, où c'est vous qui vous adressez à notre Seigneur, avec vos mots à vous, d'une façon toute simple, en ayant pris conscience de tout ce qu'il a subi. Voyez. Alors, par contre, ensuite, il faut faire attention à ne pas vouloir tenir le crachoir, entre guillemets, tout le temps. Donc il faut apprendre, bien sûr, à se taire aussi, et apprendre à parler, donc à doser les temps de silence et les temps de parole. Mais normalement, l'oraison, ça doit être un cri du cœur, une fois que vous avez mieux pris conscience, par exemple, en l'occurrence, de ce que notre Seigneur a subi dans ce mystère. Voyez. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour préciser cette pensée, donc je vous lis ici donc, ce que dit l'auteur, si j'arrive à retrouver les pages. La méditation quotidienne nous est représentée souvent comme un exercice qui occupe en chacune de nos journées une place à part et consiste en une concentration intense de la pensée sur un point de la vie chrétienne. Donc ça, c'est le premier mode de prière, qui est le plus imparfait donc. Dans le but de déterminer et de proposer à la volonté une ou plusieurs résolutions d'amendement ou de progrès. Je n'affirme pas que les maîtres contemporains de la vie spirituelle s'attachent à définir ainsi la méditation, mais je crois ne point me tromper en disant, appuyé sur une expérience déjà longue, que beaucoup d'âmes pieuses, religieuses, sacerdotales se font de leur oraison journalière la conception qui vient d'être esquissée. La méditation, pour elles, est un exercice solitaire où l'esprit s'absorbe dans un effort soutenu de réflexion. Sans doute, leur méditation ne se termine pas à un acte d'intelligence. Ensuite, donc, après ce travail de tête, donc, il va y avoir des décisions qui sont prises. Mais d'une façon générale, c'est quand même je dirais, la dominante. Voilà. Et là, il va ensuite rectifier en disant « La méditation, donc, telle qu'il la conçoit lui, donc l'oraison, n'est pas un exercice intellectuel solitaire, mais un entretien de l'âme avec notre Dieu vivant. » Donc il s'agit de rentrer en communion, en communication avec le Dieu vivant et vrai. C'est ça, en fait, l'oraison. Donc deux personnes sont engagées, oui. Étant un entretien avec Dieu, l'oraison consistera à écouter Dieu plus encore qu'à lui parler. Et bien sûr qu'ensuite, il y aura aussi une réponse, bien sûr, qu'on lui donnera. L'objet principal de l'oraison ne sera donc pas une vérité abstraite à mûrir dans un intérêt moral. Son objet principal sera notre Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne, ses enseignements, ses exemples, ses états, ses œuvres. N'eussions-nous pas conscience de vouloir nous amender ou nous perfectionner, l'oraison nous purifiera, nous sanctifiera, car les attraits du cœur de Jésus sont le plus fort stimulant de l'effort chrétien et le motif le plus efficace des déterminations viriles d'une âme généreuse. Donc si on rentre réellement en communication avec Dieu, bien sûr que ça ne pourra que nous rendre meilleurs, ouais. Même si on n'a pas formulé de résolution très précise. Ouais. Mais bien sûr que ça n'empêche pas d'en prendre aussi, hein. Alors ensuite, précision encore, il va préciser sa pensée sur l'oraison. Il faut faire de l'oraison, et ça recoupe un peu ce que Mgr Lefebvre disait, il faut faire de l'oraison un acte, un exercice de l'âme entière, donc toute l'âme, qui soit inspirée, constamment soutenue par le sentiment que Dieu nous aime. Vous voyez, c'est toujours Sainte Thérèse d'Avila, elle définit l'oraison comme un entretien d'amitié, cœur à cœur, avec celui dont elle se sait aimer. Elle ne dit pas dont elle se sent aimer. Il y a des moments peut-être qu'on ne sent rien du tout, mais on se sait aimer. Je sais que Dieu m'aime. La preuve, c'est qu'il est, il m'a créé, il m'a sauvé, il a versé son sang pour moi. Et donc, je cherche à rentrer en communication avec lui parce que je sais qu'il m'aime. Et donc, ce savoir aimer de Dieu, ben, ça, bien sûr que ça nous donne des ailes. Vous voyez, ça nous donne vraiment ça décuple notre énergie. Donc, l'oraison est essentiellement un entretien cœur à cœur, un échange d'affection, de confidence, de promesses réciproques et de mutuelles espérances avec le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'entremise de l'homme-Dieu avec le Père éternel lui-même. Bon, après, il y aurait trop de choses à dire, donc je pense vous avoir dit le principal. J'ai peut-être trouvé une conclusion. Ce savoir aimer, c'est la condition fondamentale, le point de départ obligé, l'âme de toute l'oraison. Ce sentiment que, en nous approchant de Dieu, nous nous approchons d'un Père qui nous aime, ouvre le cœur aux épanchements de l'affection, aux confidences intimes et fait se multiplier les actes d'amour. Et c'est certain. Plus on sera persuadé que le bon Dieu nous aime, plus on aura de facilité à rentrer en communication avec lui. Vous voyez. Alors que si au contraire on est plus craintif, on dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Donc c'est vrai, et elle est bien le commencement. Donc on a aussi besoin de la crainte à certains moments dans la vie spirituelle. On a besoin souvent pour sortir du péché. Beaucoup de personnes qui sortent du péché, c'est souvent dans les épreuves, donc ou la crainte de mourir. Mais la crainte n'est que le commencement ensuite. Mais d'une façon générale, comme la crainte nous meut de l'extérieur, on a besoin d'un sentiment plus noble, je dirais, pour nous pousser vers Dieu. Et ce sentiment, c'est l'amour. Et d'une façon ordinaire, eh bien, c'est l'amour qui doit être le principal moteur de notre vie. Et à un autre moment où la crainte peut aussi servir de parapet, comme dernier je dirais, recours eh bien, dans les grandes tentations, c'est là aussi le fait de savoir, lorsque l'amour de Dieu n'est plus assez fort pour nous maintenir dans le droit chemin, eh bien, la crainte peut être en ce moment-là le dernier parapet pour nous empêcher de commettre aussi l'irréparable. Donc dans ces deux extrêmes, je dirais, la crainte a un rôle à jouer. Mais d'une façon ordinaire, Dieu veut qu'on avance à lui à pas d'amour. Voyez. Il nous a donné un cœur pour aimer, et c'est donc de cette manière-là que l'on doit s'avancer vers lui. Alors, après avoir beaucoup parlé, eh bien, essayons de prier encore bien plus et bien mieux. Donc, bon courage pour les travaux pratiques. On va se rendre à l'église pour une petite prière.